Erving Goffman est un auteur majeur des études carcérales. En 1961, il publie « Asile » en langue anglaise. Et moi, j'ai une question. À quoi peut nous servir un ouvrage qui s'appelle « Asile » pour penser la prison ?
Écoute, il faut se rappeler le projet de Goffman. Goffman, ce qu'il veut, c'est comprendre le fonctionnement des espaces confinés. Pour cela, il choisit un asile, donc un hôpital psychiatrique, et il va s'intéresser à ce lieu-là en se départissant des stéréotypes sur la maladie mentale, et plutôt essayer de comprendre quelle est la nature des interactions entre les acteurs dans un espace confiné. Pour ça, il va développer un projet qui relève de la sociologie interactionniste, et cette modalité d'appréhender les lieux confinés est tout à fait intéressante pour comprendre comment ils fonctionnent et avant d'intervenir dans ces lieux-là.
D'accord, donc Goffman nous aide à comprendre le fonctionnement de la prison.
Absolument, et pour faire ça, il va développer la notion d'institution totale. Une institution totale, c'est donc un lieu qui rassemble toutes les caractéristiques partagées par la prison, les campements de militaires, les monastères, tous les lieux fermés où les individus ont à développer des formes d'interaction précontraintes.
D'accord, mais en quoi la prison est une institution totale ?
La prison fait partie en fait de la famille des institutions totales pour des raisons assez simples. Elles ont toutes des interactions qui sont réglées, codifiées. Elles ont des règles qui sont strictement appliquées. Et ceci étant, malgré la présence de ces règles officielles, on observe aussi des formes d'adaptation à ces mondes, des formes de négociation, de résistance des acteurs. C'est ce que Goffman appelle en fait des adaptations. On observe aussi que ces lieux, quoique fermés, parce que caractérisés par la présence de frontières, des hauts murs par exemple, comme la prison, eh bien ces frontières, comme toutes les frontières, elles ont vocation à être traversées. Elles sont l'objet de circulation de biens, de personnes, d'idées, de valeurs. Et cette circulation-là, elle forme le lien entre le dehors et le dedans de la prison.
D'accord. Et plus concrètement encore ?
On pourrait prendre l'exemple d'un détenu. Quand il entre en prison, la première expérience est une expérience choquante où en fait le détenu va découvrir que les règles qui s'appliquaient à sa propre vie à l'extérieur sont chamboulées par l'expérience de l'entrée en prison. Je te propose d'écouter par exemple un ancien détenu de la prison de Pimba au Burundi qui va nous raconter comment il a vécu cette expérience de choc.
Très bien, oui.
Allons-y.
C'est là où quand même j'ai eu un peu peur. Pour la première fois, parce que là, vous voyez des prisonniers qui sont là, donc qui sont en train de crier, donc qui cherchent des visites, de l'aide de la part des gens qui sont là. Alors, directement, on ouvre le portail et on vous met dedans. Ça fait peur. On a l'impression qu'elles sont des fauves qui veulent vous dévorer, mais par après, quand on est déjà entré dedans, on trouve que c'est tout à fait normal.
Alors tu vois, Marie, que le témoignage de ce détenu rend bien compte du choc qui est celui de l'entrée en prison. Mais il faut se quand même prendre conscience que ce choc-là, il n'est pas à intenter. C'est un processus qui commence dès l'incarcération dans la cellule au commissariat, qui se poursuit aussi dans le cargo, dans le véhicule qui emmène les détenus du commissariat à la prison ou du tribunal à la prison, dans laquelle les détenus vont commencer à prendre la mesure du changement des règles dans lesquelles auxquelles ils sont confrontés. Et ensuite, par exemple, à la prison de la Mako, à Ouagadougou, les détenus, quand ils arrivent, ils sont assis dans la cour, ils sont fouillés une première fois, on les envoie ensuite dans les cellules, où ils vont subir une deuxième fouille organisée par les détenus eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que le chef de cellule va leur apprendre et leur expliquer les nouvelles règles qui s'appliquent à leur vie, les règles de ce lieu confiné.
D'accord. Et tu as d'autres exemples dans d'autres prisons ?
Oui, dans d'autres prisons, il y a le même processus, mais parfois exercé de manière plus violente. Dans certaines prisons, les détenus sont systématiquement mis à nu au greffe. Ils sont refouillés de manière encore plus violente par les détenus. Par exemple, j'ai des témoignages de détenus de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qui ont été mis à nu et fouillés dans l'anus, dans tous les orifices, par les détenus à la recherche, par exemple, d'argent qui aurait été caché ou ingéré par les détenus. Donc, toutes ces pratiques, toutes ces expériences choquante, elle relève de ce qu'on appelle une forme de rituel, un rituel de séparation, c'est-à-dire de l'incorporation dans les corps de l'expérience du fait de quitter un monde pour en intégrer un autre, donc rituel de séparation qui est en général suivi par un rituel d'agrégation qui permet de consacrer l'acceptation du détenu dans un nouveau monde. Cette question du rituel de la séparation et de l'intégration, il a été traité en Afrique australe par un anthropologue britannique qui s'appelle Victor Turner, qui essaie de comprendre et de comparer des rituels d'initiation en Afrique avec, par exemple, l'entrée au monastère. Et il signale, par exemple, que ce que Goffman appelle des mortifications, donc l'inscription sur les corps de cette nouvelle règle de vie, elle se traduit chez les moines par la tonsure, le fait qu'on se rase la tête. Eh bien, chez certains détenus, on observe ça aussi dans les prisons, où systématiquement, ils vont être tondus à l'entrée en prison. En fait, moi, je vous invite même chez vous à essayer d'observer dans votre vie quotidienne quels sont les moments où se traduit le changement de statut sur les corps. On est tous confrontés à ces expériences-là, par exemple dans le cadre du mariage ou dans le cadre d'un baptême. C'est la consécration, la traduction dans le rituel du changement de statut de l'individu.
D'accord. Et donc, si je résume, il y a une volonté d'isolement vis-à-vis de l'extérieur et une volonté de contrôle entre les murs.
Oui, en fait, il existe une volonté de légiférer autoritairement sur tous les aspects qui concernent la vie quotidienne de l'individu. L'heure à laquelle il mange, l'heure à laquelle il va se lever, est-ce qu'il a le droit de sortir, quand et comment. Même parfois, il y a le règlement de la sexualité de l'individu. Tout ça est supposé pris en charge par le règlement de l'institution. Mais quand même, par rapport à ce modèle goffmanien qui semble présenter une image très codifiée, très contrôlée de la vie ordinaire des individus, on voit bien très vite qu'il y a une inflexion que l'on peut observer quand on regarde comment ça se passe sur le terrain. Il n'y a pas, par exemple, une irréversibilité des rôles entre les détenus et les gardiens dans ce processus de contrôle. En fait, chacun participe à coproduire cet espace. Je te propose, par exemple, de regarder l'exemple de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. En Côte d'Ivoire. À la MACA, le système carcéral n'est pas simplement maintenu par les gardiens. Ce n'est pas les gardiens seulement qui maintiennent la loi. Elle est aussi, cette règle de la prison, elle est mise en place par les détenus eux-mêmes dans le cadre d'un équilibre entre gardiens et détenus qui permet en fait de permettre le développement de l'activité informelle et d'une activité qui est finalement au cœur du fonctionnement de la prison.
D'accord, et tu peux me donner un exemple ou plusieurs exemples ?
Oui, un exemple concret. Un gardien peut évidemment mettre un détenu au blindé pour le punir d'une action qu'il aurait fait qui contreviendrait à la loi. Mais en fait, on observe aussi que le gouvernement informel de la prison, la Camorra, peut aussi décider d'envoyer un détenu parce qu'il enfreint des règles qui sont ceux de la Camorra, comme par exemple dévoiler un secret interne du fonctionnement de la prison. Chaque bâtiment à la MACA est géré par un chef bâtiment. Le chef bâtiment, c'est le gouverneur en fait, du bâtiment. Il fonctionne avec des éléments, des détenus qui sont à son service, avec lesquels il est d'ailleurs dans une relation de clientèle, de droits et de devoirs. Et parmi eux, il y a par exemple un porte-clés, qui est celui qui, le matin, va ouvrir les prisons pour permettre ce qu'on appelle le décalage, la sortie des détenus dans la cour ou dans le bâtiment, et qui va le soir, effectivement, contribuer également au comptage des détenus et transmettre le nombre des détenus contenus dans les prisons. Et s'il manque un détenu, on va convoquer les requins, qui sont d'autres détenus qui sont engagés dans le maintien de la loi interne de la prison. Et par exemple, ce sont eux qui vont partir à la recherche des détenus qui ne seraient pas présents au moment de l'appel en fin de journée. L'ensemble de ces acteurs y contribuent à la maintenance de la règle de la prison qui régit la vie de ceux qu'on appelle à la MACA les cabachas. Les cabachas, c'est les hommes de la prison. Et ironiquement, en Côte d'Ivoire, on appelle la MACA la caba parce que la caba, c'est, vous savez, la pierre noire de la Mecque. Et la caba et la prison ont en commun le fait d'être traversés par un ensemble de tabous et de règles extrêmement strictes. Donc, dans ce système-là, il n'y a pas que les détenus qui participent. Les gardes, évidemment, sont aussi des acteurs de ce système de contrôle. Parce que, en fait, il faut bien prendre la mesure que les gardiens s'appuient sur ce gouvernement informel pour tenir la prison, mais aussi parce que ce système les alimente comme eux-mêmes bénéficient des trafics générés par ce système informel.
Ouais, mais je suis un peu perplexe quand même, parce que Goffman, il donnait de l'importance aux pratiques des reclus, enfin des prisonniers.
Oui, en fait, Goffman, ce qu'il veut faire, c'est rendre compte de les manières d'agir et les manières de penser des internés eux-mêmes, des reclus, des prisonniers. Il veut en fait révéler leur cadre de pensée propre et comprendre finalement comment leurs actions se déploient et selon quelle logique au regard de l'espace confiné dans lequel ces actions sont inscrites. Son ouvrage, en fait, il permet de donner une voix aux détenus. Et il rencontre aussi des adaptations produites par les acteurs pour vivre dans cet espace très contraint. C'est par exemple ce que raconte Pacom un entretien, dans le cadre d'un entretien que j'ai réalisé avec lui en Côte d'Ivoire. Pacom est un ancien détenu qui était chef du bâtiment de l'infirmerie à la Maca. On l'écoute ?
Oui.
Qu'est-ce que ça implique, en fait, d'être à l'infirmerie à la fois un détenu qui participe du système de la prison et qui connaît les règles de la Camorra, qui est ce gouvernement officieux de la prison par les détenus, et un agent de santé et un CB infirmerie. Ça implique quoi au quotidien ?
Bon, d'abord, en tant que aide-soignant, les détenus, mes co-détenus me respectent beaucoup. Et l'administration, presque tous les agents me connaissent. Je suis quotidiennement dans l'administration. Tous les jours, je peux aller dans l'administration peut-être 5-6 fois par jour. Je peux rentrer dans le bâtiment, dans les autres bâtiments, au moins 3, 4, 5 fois par jour, tous les détenus me connaissent. Et c'est par moi qu'ils passent, quand ils ont des sérieux problèmes, pour atteindre les médecins. Donc, je suis respecté et de mes co-détenus, et de l'administration pénitentiaire, et aux yeux de personnel médical. Donc, ce qui fait que je jongle entre ces trois entités, parce que quand ceux qui viennent faire le trafic à l'infirmerie, je suis obligé de fermer les yeux là-dessus pour ne pas gêner leur business et peut-être moi-même, puisque je vois les règlements de compte quotidien à la MACA, pour ne pas subir aussi leur courroux de règlement de compte. J'essaie aussi de fermer les yeux côté administration, puisque les gardes pénitentiaires sont chargés de la surveillance de ces détenus. Et c'est les mêmes gardes pénitentiaires qui les apportent cette drogue et ces alcools, ces cigarettes. Donc, je ne peux pas aller contre. Je ne fais que faire le constat, le rapport à qui de droit au personnel de la santé.
Alors, on voit bien dans cet entretien que les détenus sont dans une situation d'allégeance multiple à diverses sources d'autorité. L'administration de la prison, les hiérarchies internes de la prison. Ce qui veut dire qu'en fait, que faire sa prison, comme le disent les détenus eux-mêmes, c'est relève de l'art de la négociation entre diverses normes officielles et officieuses. Les détenus doivent en permanence s'adapter pour apprendre à gérer ces relations avec ces diverses sources d'autorité, qui sont parfois en conflit quand même les unes avec les autres. En fait, par ces pratiques de négociation, l'ensemble des acteurs de la prison, détenus et gardiens, maintiennent et reproduisent l'équilibre précaire de la prison.
D'accord. Donc, mais s'il y a des marges de manœuvre à l'intérieur, peut-être aussi que vis-à-vis de l'extérieur, il y en a. Les frontières sont peut-être un peu plus poreuses que ce qu'on pourrait penser.
Oui, tout à fait. En fait, il existe des échanges entre le dedans et le dehors de la prison. Ces échanges sont à la fois matériels et symboliques. Un exemple très simple, du point de vue de la gouvernance de la prison. Ouais. Le système dont je viens de parler avec ces chefs de bâtiment, qu'on appelle souvent des vieux pères et des bons petits, tout ça, en fait, reprend les codes et le système des valeurs de la société Nouchi qui régit la vie dans les quartiers informels, dans les quartiers plutôt populaires d'Abidjan. L'exercice du pouvoir, les modalités de l'alliance, c'est-à-dire les formes d'allégeance, le clientélisme qui gère la vie de la prison et les interactions de la prison s'inscrivent en fait en continuité de la vie dans les quartiers populaires.
D'accord. Et tu aurais d'autres exemples de circulation ?
Oui, tout à fait. La prison, en fait, n'est pas un monde clos. C'est un monde qui est traversé de multiples circulations. Elle est en fait une chambre d'écho des tensions qui traversent la société. En outre, la prison, tout en étant un espace situé fermé, c'est un espace à la frontière qui, comme je te l'ai déjà dit, est traversé par de nombreuses circulations. On y voit entrer de la nourriture, de l'argent, aussi de la formation, de la drogue et aussi des biens qui irriguent la prison et qui en fait l'inscrivent dans des réseaux qui sont à la fois licites et illicites. Enfin, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de nombreux acteurs qui entrent dans la prison et qui font que la prison est aussi ce qu'on appelle une forme de dans un contexte de détotalisation.
D'accord. Et là, tu aurais des exemples ?
Oui. On peut penser par exemple à la présence des acteurs institutionnels qui interviennent dans la prison, par exemple sur la santé. Alors lesquels sont-ils ? Eh bien le CICR, Médecins du Monde, Expertise France, tous ces acteurs interviennent dans la prison aux côtés d'autres acteurs qui sont par exemple des acteurs confessionnels, les églises protestantes, catholiques, également certains mouvements musulmans qui sont en général un peu moins présents que les mouvements chrétiens. On rencontre aussi beaucoup d'acteurs privés. Par exemple, au Burkina, dans la prison de Zignaré, il y a un acteur qui est un guérisseur qui s'appelle Saïdou Bikienga, qui est contacté directement par les prisonniers, par courrier, pour qu'il leur demande de l'aide. Et ce guérisseur, par exemple, il a construit dans la prison des abris pour le soleil, pour les détenus, pour les familles qui viennent visiter, et il fournit régulièrement de l'aide alimentaire. Et enfin, il ne faut évidemment pas oublier que parmi ces acteurs qui font entrer des choses dans la prison, il y a les gardiens et les professionnels, notamment ceux de la santé, qui sont en fait des portes ouvertes vers l'extérieur.
D'accord, mais donc finalement, quand il y a des formes d'humanisation des conditions de détention, il y a aussi une remise en cause de la dimension totale de l'institution pénitentiaire.
Oui, la dimension totale de l'institution, c'est un modèle, c'est pas une réalité intangible qu'il faudrait chercher comme ça systématiquement sur le terrain. La question que pose en fait la description des négociations qu'on a proposées, c'est celle de la capacité qu'a l'institution carcérale d'obtenir un résultat dans ses objectifs et dans ses missions, alors qu'elle est prise entre des règlements officiels et des pratiques quotidiennes que l'on peut observer dans leur fonctionnement.